l'heure.
C'est l'heure.
C'est l'heure.
L'appel à tarte.
Faites chauffer la pâte.
C'est l'heure de l'appel à tarte.
Bonjour ou bonsoir, il est 18h sur Radio Campus 93.3, vous êtes dans l'émission L'Appel à Tarte, l'émission mensuelle de la nouvelle grille de rentrée. Alors, dans cette émission, je suis ravi d'accueillir à nouveau tous les prétendants au micro. Nous aurons évidemment Aline Ayatouskifo et son montage d'archives au troisième étage. Les voix de secours et leur gospel à tarte, Alison The Road qui nous a rapporté quelques sons de la ville et du reste évidemment, et puis sans oublier l'extra Lucie hein, ou encore Karma Burnie, excusez-moi, et qui nous présentera donc son péloscope et sous les feux de l'appel évidemment la tarte Lampion qui fera la lumière sur n'importe qui ou tout ce qui lui passe par le manche si elle veut bien prendre la peine de se rendre jusqu'au studio, et puis évidemment nos trois débatteurs que nous aurons le plaisir de vous présenter tout à l'heure au moment du débat tant attendu. Alors au sujet de cette émission, eh bien, nous allons aborder un vaste sujet hein, puisqu'il s'agira d'aborder le sujet des places, hein, des palaces publics, privés. Enfin, il y en aura pour tout le monde et nous allons commencer cette émission bien sûr par ce fameux montage d'Alina, il y a tout ce qu'il faut. Hein. En attendant, voici, c'est parti.
Bonsoir les pauvres.
Le palace est très rigoureux sur la sélection de ses hôtes. Nous ne mélangeons jamais les torchons et les serviettes.
L'appel à tarte.
Nous n'avons pas engagé de négociations avec monsieur
le président Nicolas Sarkozy.
Ce que nous avons fait est une chose très simple. Nous sommes montés, nous lui avons dit ce qui se passait dans la rue. Nous lui avons dit qu'aujourd'hui dans la rue, il n'y avait pas seulement des étudiants en colère parce qu'on avait fermé la Sorbonne, mais qu'il y avait des étudiants en colère parce qu'on avait fermé
le Grand Louvre,
le Vélodrome et la piscine olympique à la grande extension de la Cour européenne de justice.
Aujourd'hui, toute une haine contre une certaine société ressort de la jeunesse qui est dehors dans la rue et qui font des barricades. Ceci est notre opinion, et pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit, que
le président Nicolas Sarkozy
demande à qui s'occupe de l'affaire maintenant en France, que la police quitte le quartier latin, alors toute effusion de sort, tout mort pourra être évité.
Que vous a répondu, monsieur
le président Nicolas Sarkozy
qu'il allait faire transmettre ce que nous avons dit.
Arrêt sur image. Le magazine de la rédaction de France Culture, présenté par François Bédin.
Les grands chantiers du président. Notre invité, Émile Biasini, secrétaire d'État chargé des grands travaux. Bonsoir. Cette semaine, nous avons arrêté le film des événements sur la conférence de presse de Jack Lang, le ministre de la Culture et de la Communication, y annonçait que le Grand Louvre, depuis l'ouverture de la pyramide de l'architecte Pei, avait accru le nombre de ses visiteurs de 44% par rapport à l'an dernier. Au cours de cette conférence de presse, Michel Laclotte, le directeur du musée du Louvre, se montrait très satisfait au micro de Brigitte Becker.
Bonsoir, bienvenue dans la suite majestique.
Nous sommes dans la plus grande suite de ce palace. 650 mètres carrés de luxe en face du palais. Le majordome peaufine les derniers détails jusqu'à l'arrivée de
2 millions et demi.
Tout sera prêt quand il arrivera.
Heureusement. Bonne soirée.
Dans les grands hôtels, plus qu'ailleurs, tout doit être impeccable. Avant, il y a de l'anticipation, mais ça ne suffit pas.
On met tout sur papier 2 mois à l'avance et puis après, on passe dans l'exécution. Et entre le papier et l'exécution, il y a parfois un peu de décalage. des décalages qui sont souvent liés à des changements de dernière minute.
Un peu plus loin, sur cette plage privée qui accueillera les soirées, c'est vraiment le feu sur le sable, pose de parquet, de mobilier, de tentes. Un vrai chantier pour accueillir
2,5 millions
par jour, contre 120 d'habitude.
Pas mal de stress quand même, très peu de nuit de sommeil, mais ça va aller, on a 10 jours à tenir, donc ça va bien se passer.
Un peu plus tard, retour au palace, le stress, il ne gagnera pas la conciergerie, même si le hall fourmille de plus en plus.
Beaucoup de colis qui arrivent, je vous dis encore une fois, beaucoup de téléphones.
Beaucoup de soucis ?
Non, soucis, non, pas des soucis, l'occupation.
Eh oui, l'expérience, rien de tel pour supporter la pression d'une ville qui soudainement devient trois fois plus peuplée.
Pierre-Antenac, je me trouve toujours rue de l'Estrapade et rue Thouin. C'est un combat sauvage. Je vous affirme que le mot n'est pas trop. Les étudiants sont maintenant massés derrière les deux ou trois dernières barricades qui restent. Ils ont mis le feu à des voitures et de temps en temps, on entend la lourde explosion d'un réservoir d'essence. Les flammes montent, c'est un jet continu de grenades lacrymogènes et également de cocktails Molotov. Les pavés volent. Je crois que nous sommes en train d'assister au dernier moment de ce réduit.
Eh bien écoutez, Jean-Pierre Cabache, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain.
Toutes les critiques sur cette fameuse pyramide petit à petit s'effondrent et le public apprécie de plus en plus ces nouveaux espaces. Et on s'en rend compte par le chiffre des visiteurs, sans parler des gens qui viennent sous la pyramide sans entrer dans le musée, simplement par curiosité. Cette année, il y a eu 44% de visiteurs en plus, ce qui fait à peu près 2,5 millions en quelques mois. Nous ne pouvons pas encore juger notre public, réellement, sauf par des sondages que nous allons faire, mais on sait déjà qu'il y a davantage de Français, ce qui est très bon signe. Il n'y a pas seulement le touriste, si vous voulez, qui vient automatiquement conduit par un tour opérateur, il y a aussi vraiment un besoin des Français de voir leur musée.
Et bien voilà pour ce montage à travers les places et les palaces, hein, ces joies, ces débordements. En tout cas, merci à Alina et à tout ce qu'il faut, ainsi qu'à l'Imperator au montage. Alors, évidemment, chers auditeurs, nos débatteurs sont là, hein, ils sont sur les starting blocks, ils écoutent attentivement les sons qui passent pour l'appel à tarte et pourront réagir, mais cela se fera en temps voulu car il n'est point encore l'heure du débat et nous allons maintenant vous conter une belle histoire. Oh, quelle belle histoire!
Pendant que tu étais sur la plage cet été ou bien dans la forêt, as-tu imaginé que ton cartable rêvait?
Oh, quelle belle histoire!
The Palace to Be. The Place to Be.
À Clermont-Ferrand, nous sommes vierges de tout palace, mais des places, messieurs, dames, il y en a à l'appel. Certes, l'électrique palace s'impose chaque année au mois de février, mais cette entartée culturelle ne mérite tout de même pas une chronique à part entière, à vrai dire quelques miettes tout au plus. Cependant, les places publiques sont sournoises et ont une fâcheuse tendance à s'engoncer là où on les attend le moins, comme vous le verrez si vous écoutez très et attentivement. Ainsi, imaginons ensemble ce qu'aurait pu être cet hypothétique palace clermontois si la ville n'avait été à plus de 3 heures de train de tout endroit un tant soit peu civilisé. Fermez les yeux et laissez-vous transporter par nos voies parfois terraillées dans les dédales des palaces un univers d'impies notable.
Tout comme au Fouquet's, nous aurions pu, les yeux brillants d'admiration, y voir s'y pavaner le président local et toute sa cour le soir de sa victoire. Mais en Auvergne, on sait rester discret, et Giscard a plutôt choisi les bûches de sa cheminée au soir de son succès. Laissons ce vieux Regensburg à son âtre et continuons notre visite. Fantasmant dorures et étoffes soyeuses, candélabres et lustres scintillants, nous voici transportés dans le doux rêve d'un palace à portée d'imagination. J'ose espérer que vos gouttières sont toujours fermées et votre hémisphère droit en éveil total.
Tout comme à Spitbank Fort, nous pourrions passer une nuit sur une île d'une cinquantaine de mètres de diamètre dans un ancien fort transformé en hôtel de luxe. Pour la modique somme de 6 250 € la nuit, avec tout de même dîner et petit déjeuner compris, nous pourrions nous délasser sereinement dans un des 8 anciens de poste de mitrailleuse. Il n'y a pas de ligne de métro pour s'y rendre, mais l'on peut prendre un yacht depuis la marina. Nous le savons bien, vous allez nous dire que c'est impossible, qu'à Clermont-Ferrand, les deux arrivées d'eau connues sont souterraines, mais c'est ça l'incroyable. À ce moment de l'histoire, j'espère que vous n'êtes pas las, car notre récit continue.
La chambre que nous avons choisie est forcément la suite royale, aménagée dans un style parisiano-auvergnat. Meubles d'époque régence et antiquités constituent un mobilier de très grand luxe dans la plus pure tradition des arts décoratifs français. Les boiseries XVIIIe siècle, les soies, damas et tissus émanent des plus anciennes maisons artisanales françaises. Toutes les broderies sont travaillées au fil d'or et les rideaux qui en mêlent trois différents offrent les nuances les plus raffinées. Vous vous dites « Mazette ! Tant d'élégance, mais ce n'est pas fini !» Les plus somptueux marbres italiens, spécialement sélectionnés pour la suite royale dans des carrières de la région de Vérone, agrémentent les salles de bain. Enfin, la suite royale est tout habillée de superbes bouquets de fleurs fraîches qui ajoutent la touche finale à ce décor d'exception.
Sachant ce qu'aurait pu être notre Clermont Palace, vous vous demandez sans doute pourquoi nous ne bénéficions pas d'un établissement d'un tel standing. Nous pensons connaître la raison de cette absence. L'entrepreneur auvergnat, fort craintif de subir des pertes financières trop élevées, aura sans doute entendu parler de l'affaire de la princesse saoudienne. Mais quelle histoire puisse-elle être ? Eh bien, essayant de s'extirper discrètement du palace Shangri-La à 3h30 du matin, la suite de Maha al-Soudaini, composée d'une soixantaine de personnes, a été rattrapée alors qu'elle laissait une ardoise de quelques 6 millions d'euros. On peut le dire, c'est l'hôpital qui se fout de la charité.
Résignons-nous donc à regagner notre paillasse qui finalement, à Clermont, s'avère être The Palace to Be.
Il rêvait d'avaler des crayons, des cahiers, puis d'aller comme on vole sur le chemin de l'école. Karl Norag.
Ah, oh, c'était vraiment une belle histoire.
Thank you. soyez-le. Réception, j'écoute. Bouteille de champagne, vite.
L'appel à tarte.
Nous sommes toujours dans l'appel à tarte sur Radio Campus 93.3 et tout de suite on retrouve la chronique de le professeur Schmortz.
Et maintenant, dans l'appel à tarte, la chronique de le professeur Schmortz.
Né d'une mère dante et d'un père charrette, c'est à l'âge de 9 ans qu'Alexis Dante Charrette s'initie au jeu des miroirs. Vous savez, ce jeu qui consiste à mettre deux miroirs l'un en face de l'autre pour obtenir son image ou celle d'un objet, déclinée plusieurs fois. Avec trois miroirs ou plus, les images sont démultipliées et le résultat est d'autant plus captivant. Alexis Dante Charrette est fasciné par ce jeu. Son regard d'enfant est bouleversé par la nouvelle perception du monde qu'il découvre alors. Voir sa tête déclinée à l'infini le surprend autant qu'elle le fait hurler de rire. Oui, car il rit à gorge déployée, il est capable de rester des heures dans la salle de bain dans laquelle il vient d'installer une nouvelle glace. Il fait des installations dehors, dans sa chambre, récupère des glaces entières cassées, qu'importe, il les plaque au mur, au plafond, partout dans la demeure familiale. Il devient un fou de miroirs, il les entasse, les trie, les collectionne, les nettoie soigneusement, en emporte avec lui où qu'il aille, il devient complètement fondu, givré de glace et de miroirs. Issu d'une famille bourgeoise, Alexis, sa sœur aînée et ses parents habitent dans une grande villa, un manoir un peu vétuste, dans la charmante région du Berry. Les parents laissent la plupart du temps leur progéniture à leurs occupations, à leurs jeux favoris. Sa sœur fait de l'équitation, elle adore les chevaux, elle les use jusqu'au fer. Son frère la déteste, entre eux, c'est la guerre. Elle est de 6 ans son aînée et a beaucoup d'esprit. Elle s'amuse à répéter sans arrêt parmi les gens qu'elle fréquente dans le milieu hippique. « Je ne suis pas un cheval prêt, et s'il m'arrive d'atteler à ma carriole deux chevaux au lieu d'un, c'est pour la bonne et simple raison qu'entre moi et mon frère, c'est la guerre. Et je vous préviens tout de suite, je préfère un cheval de trop à Alexis Dante Charrette. » Bref, l'ambiance familiale est agitée. Quelques mois après la découverte du jeu des miroirs, les parents d'Alexis s'inquiètent car leur fils, qui manipule du verre, étamé ou non, à longueur de journée, se blesse régulièrement. C'est alors qu'il faut recoudre, car le sang coule et le petit Alexis finit, malgré lui, par collectionner aussi les cicatrices. Au fur et à mesure, l'adolescent qu'il devient entre dans un rapport fanatique et obsessionnel envers les miroirs. Cette situation commence à faire réfléchir ses parents. Du sol au plafond, de leur chambre au salon, de la cave au grenier, ils n'en croient plus leurs yeux et ça devient invivable. La mère se met dans la tête que son fils est en train de devenir fou et qu'il doit entamer une psychanalyse. Or, Alexis Dante Charrette a dépassé depuis longtemps le stade du miroir, selon Lacan. Il a couru bien plus loin jusqu'à gravir des montagnes de glace. Il veut devenir étameur et en fait part à son père, qui s'exclame: et ta mère? Et ta mère? Qu'est-ce qu'elle va penser? Mais tu déglaces, tu débloques de glace, tu viens déjà de virer ta sœur et maintenant tu veux devenir et ta mère? Mais ça va pas, mon pauvre fils. Qu'est-ce que les gens vont refléter? Je vais en parler au glacier, moi, tu vas voir. Fini la vanille, fini les fruits de la passion. Écoute, maintenant ça suffit, hein. Mange et tais-toi. Tu vois ce plat de chou vert entamé? Eh bien, finis-le et n'en parlons plus. Comme vous pouvez le constater, l'activité et les rêves du fils ont déteint sur le père qui en tient une couche. Les tensions s'accumulent, les années passent, les Dante Charrette dépensent beaucoup d'argent à tort et à travers, plus qu'il n'en faut, à tel point qu'ils sont poursuivis et rattrapés par le fisc. La menace pèse, la saisie des biens est proche, Alexis a peur pour ses miroirs. Par un beau matin du mois d'août, alors qu'ils viennent de partir en vacances, le manoir brûle. Les parents en touchent l'assurance et partent s'exiler au Mexique. Il ne reste rien des miroirs. Alexis, à l'aube de ses 19 ans, est abattu. Mais le hasard fait bien les choses. Son oncle, par alliance maternelle, Gérard Dante Chapelle, qui voilà 15 ans a quitté son Berry natal pour aller s'installer en Amérique du Sud sans que personne n'ait compris pourquoi, connaît une fin tragique. Il meurt du choléra. Il lègue en héritage toute sa fortune et ses biens à son neveu. C'est ainsi qu'Alexis Dante Charrette devient propriétaire d'un magnifique palace qui donne sur la grande place de Foulzifri-la-Grand-Lée, en plein cœur du Berry, bourgade voisine de celle dans laquelle il passa le plus clair de son temps à entasser des miroirs aujourd'hui disparus. Ce palace, dans lequel personne n'a posé les pieds depuis plus de 15 ans, est intact. Un peu de poussière, à peine, c'est remarquable, et pour ce jeune homme qui ne croit plus en la vie, c'est bientôt la révélation, le retour à l'émerveillement, car lorsqu'il entre dans sa nouvelle demeure, il découvre au premier étage l'endroit dont il a rêvé depuis toujours, la salle des miroirs. Une pièce de 95 mètres carrés, 4,50 mètres de hauteur sous plafond, entièrement recouverte de miroirs, excepté les grandes ouvertures qui donnent sur l'extérieur. Aucun meuble, une salle nue, mais un vrai labyrinthe. Il éclate de joie, il se dévait et nu comme la pièce, il rit et pleure à son rôle et par terre. Au bout de quelques heures, il reprend ses esprits, rassemble ses affaires, peine à trouver la sortie et dans son élan part à la conquête de la ville et de ses habitants. Grâce à l'héritage, il fait construire une usine et se lance dans la miroiterie, monte une école des tameurs, il ouvre son palace au public et goûte ainsi au mélange exquis selon lui, partager le fruit de son travail et sa passion des glaces. La gente féminine accourt. Les hommes sont peu au rendez-vous. Fort de son implication locale, quelques années plus tard, il devient maire de Foulzifry-la-Grandlée. Il prône une ville qui brille, une ville qui éblouit, qui en met plein la vue. Il décide de reproduire en partie le principe de la salle des miroirs sur l'espace public. C'est ainsi qu'il inaugure la grande place des glaces et un édifice de 26 mètres de hauteur, la tour des Mésanges façon miroir aux alouettes, et ce, en plein mois de juin par un soleil de plomb. C'est infernal. C'est l'éblouissement total. Même des verres fumés ne suffisent pas à se déplacer sans bousculer son voisin. Alexis Dantcharette, même s'il n'y voit pas plus clair que ses concitoyens, hein, c'est-à-dire pas grand-chose, est cependant ébloui par la gente féminine venue en masse lui faire un triomphe, un accueil presque hystérique. Vêtu d'un costume à l'image de la tour qui surplombe la place publique, il avoue, imprudent et solennel, à la limite de l'inconscience. « Mes chers concitoyens, je vous aime et je me fonds dans la foule comme j'entre dans une femme. » Il continue son discours dans la chaleur assommante, il divague, il délire, il est troublé par ces femmes venues en masse. Hein. C'est l'excitation générale, c'est chaud, ça boue, les corps craquent, hein. Les gens ne savent plus où donner de la tête, se cognent contre les miroirs érigés sur la place, les femmes sont à bout et s'emparent de la tour des Mésanges. Elles montent en masse dans l'édifice qui n'est qu'un simple assemblage de miroirs et n'est pas conçu pour supporter une telle charge. Alexis Dantcharette s'évanouit, la tour s'effondre, se brise, c'est le drame. Le sang se répand sur la place de glace. Le corps d'Alexis Dantcharette est en morceaux. Le jeu des miroirs est terminé. Plus rien ne réfléchit. Il n'y a plus d'image. Le soleil disparaît et la nuit tombe. Alexis Dantcharette est mort.
Se disperse entre bagages et clés, à prendre ou à laisser. J'aurais pu rester ainsi, à contempler sans répit, ce trottoir passager comme une ancienne amie. Et en entendant je ne sais quoi, je ne sais qui.
Palace Hôtel, mon coin des touristes en transit. Tous les jours on va, on vient, on visite. Palace Hôtel.
Où est-ce que je suis ?
Vous êtes à la réception, monsieur.
On est dans quelle chambre ?
L'appel à ta...
Chers auditeurs, il est 18h26 sur Radio Campus 93.3 et vous êtes bien dans l'appel à tarte. Et maintenant, voici l'heure tant attendue du débat. Alors, un débat aujourd'hui, je vous le livre tel quel. Faut-il ouvrir les places privées au public ou privatiser les places publiques ? Eh bien, pour débattre de cette question, nous recevons sur ce plateau Simone Poulette. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes membre du GPS, hein, qui défend une nouvelle orientation dans l'espace public face aux frais grandissants à la charge de l'État dans ce domaine. Hein, votre mouvement propose de déléguer l'espace public au privé et propose une liste aux prochaines municipales. Également, Colette.
Bonjour.
Bonjour. Colette, donc indignée qui s'indigne. Et puis, Amato Amator, hein, dit urbain de pied dans le milieu du BTP. Bonjour.
Tout à fait, bonjour.
Alors vous êtes architecte urbaniste, hein, vous êtes expert, ancien consultant pour Vinci, et vous venez de publier un ouvrage de la courte échelle aux espaces vides, histoire de grues et vides et tractopelles. Alors pour commencer ce débat, j'aimerais vous demander si pensez-vous que nous vivons actuellement une époque où l'espace privé et l'espace public sont en transformation, ou comment dire, est-ce que la place publique, elle, l'enjeu de la place publique est-elle en mutation?
Oui, alors je pense que c'est plutôt à moi de répondre à cette question. Simone Poulette, donc élue GPS, donc pour un grand parti socialiste, oui, à la mairie. Alors donc notre proposition, c'est évidemment l'espace public coûte cher à notre ville. Donc le maintien de la propreté, l'éclairage et toutes ces choses-là coûtent extrêmement cher. Et donc notre proposition, notre orientation est de privatiser l'espace public pour en faire voilà un espace, déjà pour que cela ne coûte plus d'argent à la municipalité, puisque c'est quand même de l'argent des citoyens dont nous parlons. Et ensuite, donc ce sera des entreprises privées qui s'occuperont de gérer les espaces.
Mais concrètement, ça veut dire que les gens qui se déplacent sur une place, qui vont sur une place, il faudrait qu'ils fassent quoi? Qu'ils aient un droit d'entrée?
Voilà, exactement. Donc, ça sera au lieu que tout le monde paye le même prix suivant.
Excusez-moi.
Ah non, mais je finis mon explication. Tout le monde paye le même prix. Seuls les utilisateurs payeront en fonction de leur utilisation. Ce qui est beaucoup plus.
Ça sera par exemple en fonction du temps passé sur une place. Quoi. Il y aura une pointeuse, admettons, il y aura une pointeuse. Je sais pas, on arrive, on pointe et puis on paye en fonction du temps qu'on reste.
Alors, donc on a pensé à différentes possibilités, par exemple, comme pour le parc-mètre où on prend un ticket.
Alors, ça s'appelle un eurodateur.
Un eurodateur, voilà. Merci. Et donc, un eurodateur, on prendra un ticket et nous paye, donc le consommateur, parce que là, il faut parler de consommation quand même, payera en fonction de ses besoins. Donc, s'il est, si c'est une personne avec des enfants, sans enfants, avec un vélo, avec un chien, parce que c'est vrai que c'est pas normal que les gens
qui n'aient pas
de chien payent le même prix.
Je vois bien le fond de votre pensée, mais comment dire, il faudrait l'espace public n'est pas matérialisé, quoi.
Mais sur votre question, j'aimerais bien répondre, oui, parce que c'est une question très intéressante et elle aborde ses intérêts, mais elle aborde une réponse de manière très étriquée. Et si on peut, s'il vous plaît, donner un éclairage plus universel, effectivement, l'espace public est en pleine mutation, et c'est ce qu'on voit avec les indignés qui se réapproprient les places partout en Europe et en France un peu moins. Et alors moi j'ai une réflexion là-dessus, donc sur ces places publiques qu'on se réapproprie, c'est qu'on en a marre de se peler le jonc, parce que le chauffage c'est trop cher, parce que les manifestations, il fait froid, faut aller dehors, et puis les rassemblements d'indignés, c'est encore dehors. Donc moi, ce que je propose, ce que je propose à mes amis indignés, c'est qu'on continue à faire nos rassemblements, place de jeu, place de la victoire quand il fait chaud, et puis pour le reste, qu'on investisse des lieux chauffés et grands.
D'accord. Alors, qu'elle amène le sujet des...
Du coup, vous dites que le mouvement des indignés, vous participez à la mutation de l'espace public et en quelque sorte, vous serez pour une permutation du privé public, quoi.
Alors, je parle en mon nom. Hein, les indignés, ils parlent toujours en leur nom, donc je le précise.
Oui.
C'est se réapproprier des espaces qui servent, qui sont pas bien valorisés, il faut le dire, par le privé. Hein. Par exemple, le château de Giscard d'Estaing, le château de Varvas, il sert pas à grand-chose. Si on faisait nos réunions là, ça le valoriserait, par exemple.
Bon, ça, c'est quand même assez question.
Amusant.
Monsieur Amato, dit l'urbain de pied dans le milieu, vous voulez réagir?
Oui, tout à fait. Je voulais juste apporter un éclairage un petit peu historique, disons, parce que les deux personnes que vous avez invitées semblent découvrir l'eau tiède, peut-être. Parce que finalement, la plupart de leurs projets, on constate que c'est des choses qui ont été élaborées depuis
plusieurs... Monsieur, j'ai 40 piges, je vous permets pas.
Ben alors, je vous rappelle, par exemple, si on prend votre projet, utiliser pour discuter publiquement des palais privés, ça existait depuis longue date. Hein. On pourrait citer le Palais Bourbon, par exemple. Vous connaissez l'histoire du Palais Bourbon.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. C'est pas une opposition. Je dis pas que je réinvente quelque chose. Au contraire.
C'est plutôt une sorte de revendication que vous faites par là, non?
Oui, voilà, tout à fait. Je pense qu'il faut revenir à ces fondamentaux qu'on a vus déjà dans l'histoire.
Je pense qu'il faut être un petit peu réaliste. Donc, on va laisser passer ces idées
mais
assez
loufoques. Mais de la même manière pour vous, mademoiselle,
c'est complètement... par exemple, si vous parlez de privatisation et de, comment dire, d'utilisation d'horodateurs pour accéder aux places, les places de parking, elles sont symbolisées au sol, elles sont payées. Enfin, c'est des choses qui existent déjà.
Oui, qui existent. Ah non, mais moi, je ne considère pas que j'invente quoi que ce soit. Finalement, nous allons de l'avant. Il faut aller dans l'avant. En plus, nous sommes dans une économie qui est très dure en ce moment et je propose des solutions pour aider.
Alors, je m'interroge parce que votre municipalité a rendu... il y a quelques années, les toilettes étaient payantes à Clermont-Ferrand et puis votre municipalité a fait le chemin inverse. Maintenant, elles sont devenues gratuites.
Ah oui, alors j'étais pas du tout pour cette solution, mais c'est vrai que voilà, dans une ville où il y a des gens régulièrement... pisse dehors, nous avons préféré mettre des toilettes publiques. Mais là, ça serait bien sûr une véritable transformation de la ville, puisque nous privatiserons donc tout l'espace public et ça sera contrôlé par des sociétés privées et la mairie ne paiera plus tous ses frais de nettoyage, d'électricité. Et puis, il faut dire autre chose, c'est que
parfois...
On a
bien compris le fond de votre pensée, votre mouvement GPS.
Alors, j'ai pas fini. Je voulais dire travail réalisé par les fonctionnaires, par exemple, sur la voie publique, est souvent assez peu, mal fini.
Excusez-moi, nous allons passer, avant de vous faire réagir, donc, à la chose suivante, grâce à notre fameuse reporter Alison The Road. Qui a été donc à la rencontre de ces espaces publics et palaces privés, nous a rapporté quelques sons que nous vous proposons d'écouter avant de réagir.
En fait, les toilettes sont camouflées derrière de grandes portes miroirs. Merci. Ah, voilà. Oh là 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 là. Ici, c'est le luxe. Il y a une seule pissotière. Comme ça, on n'a pas besoin de réfléchir s'il faut mettre des cloisons en marbre ou en verre fumé pour ne pas voir la quéquette du voisin. Alors ils ont mis des petites vitres juste en bas de la pissotière pour éviter les éclats de pisse sur les chaussures ou sur le bas du pantalon. Voilà. Ça c'est un petit détail que je n'ai vu nulle part ailleurs. Sinon il y a pareil, c'est des petites serviettes qui sont pliées en quatre avec une poubelle à serviettes juste en bas.
Je suis actuellement aux toilettes du Raymond Bar. Je ne sais pas si on m'entend très bien. Les toilettes sont munies d'une petite musique religieuse. Dehors, le concert bat son plein. D'ailleurs, je ne vais pas trop m'attarder parce que j'ai vraiment envie d'y retourner. C'est assez génial. C'est une ambiance totalement différente que nous entendons maintenant. Alors, ce sont des toilettes qui sont intégralement taguées. Il n'y a pas de papier toilette ici, donc excusez-moi deux secondes. Ma petite affaire est maintenant terminée et j'avoue que je ne m'attendais pas à une telle ambiance dans des toilettes. C'était intéressant et pour une première, je dois dire que je ne regrette pas d'être venue ici. À bientôt pour de nouvelles aventures toilettales.
Alors, comme vous pouvez l'entendre, face à ces considérations de bas étage, enfin disons de sous-sol, puisque... Elle se passe évidemment la plupart du temps au sous-sol. Cela aussi, ça fait partie de l'espace public ou privé, parce que parfois, les toilettes sont payantes. Alors, vous avez quelque chose à...
On citait l'exemple des toilettes publiques, effectivement, qui sont payantes. Mais là, l'exemple qu'on vient d'entendre de votre reporter, c'était justement l'inverse. C'est les toilettes privées qui sont accessibles sans payer. Alors justement, vous êtes chacune en train de défendre la privatisation ou l'ouverture au public. Mais il y a déjà des exemples comme celui-ci qui existent ou qui sont privés et pourtant auxquels on accède comme si c'est un espace public.
Oui, mais ça... Enfin bon, si vous voulez parler d'autre chose, on peut vous laisser le micro aussi. Là, on parlait de quelque chose de très précis. C'est bien de dévier le sujet. Enfin, merci. Merci.
Voilà. Je suis d'accord avec vous pour une fois, mais c'est vrai que la question de « il fait froid dehors » et qu'il faut mieux faire des rassemblements d'indignés dans un lieu chauffé, on ne pourra pas aller aux toilettes tous faire notre
en même
réunion,
temps.
Ça c'est sûr.
Bien, on continue avec le sujet d'Alison The Road et on passe à la suite.
Je me sacrifie maintenant pour vous. parce que je suis dans les toilettes du Zénith, alors que je n'ai pas envie de faire pipi. Bon, je suis venue, j'avoue, pour voir une pièce de théâtre et non pas pour finalement assister à ce sommet sur l'agriculture ou je ne sais quoi. Alors les toilettes ici sentent une odeur citronnée très très forte, elles viennent d'être lavées. Tout le tour est vert, parsemé de petites taches noires. Les toilettes sont nickel. La cuvette est fermée. Et je m'apprête maintenant à essayer ces toilettes. Bon, alors, je reviens parmi vous. Voilà, la chasse d'eau est très bruyante, comme vous pouvez l'entendre. Ça me donne, à la limite, envie de vomir cette odeur de citron. Mais c'est bien, au moins, ça prouve la propreté et le fait que les citoyens payent ce zénith quand même pour quelque chose, quoi. C'est important. Eh bien, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt, car il y a des auditeurs autour de moi. Au revoir.
Bien c'est... voilà, attendez, excusez-moi, c'est quand même moi qui anime le débat. Voilà pour ce sujet d'Alice Underwood, dans laquelle nous avons partagé une certaine intimité, il faut le reconnaître. Alors, les places publiques ou les palaces privés sont des endroits où les gens partagent aussi une certaine intimité, malgré le côté paradoxal de l'anonymat qui peut intervenir avec le phénomène de foule. Je sais pas, parce que non, bah, disons, si on étudie la façon de réaménager l'espace public ou les palaces privés, il faut quand même se poser la question des gens qui viennent, et donc du phénomène de masse. Qu'est-ce que vous avez comme réponse par rapport à ça, vous ?
Effectivement, il faut adapter les lieux. Si on prend l'exemple de palaces privés qui sont devenus palaces publics, ça a existé tout au long de l'histoire de l'humanité. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on prend l'exemple, par exemple, du Louvre, typiquement, au début, initialement, c'était un palais qui était destiné à un roi, et puis petit à petit, on l'a ouvert au public. Donc clairement, il y a une restructuration de l'espace pour le rendre accessible à tous. Auparavant, c'était pour une poignée de personnes, et dorénavant, eh bien, il faut imaginer un flux quotidien de centaines de milliers de visiteurs. Donc c'est clair, vous avez raison. C'est pertinent. On ne peut pas se permettre de laisser rentrer les indignés par la petite porte et puis de les laisser vaquer à l'intérieur des lieux. Et là, typiquement, au Louvre, ils ont repensé les choses. De la même manière, au Palais Bourbon, quand il s'agit de transformer un palais privé en un parlement, eh bien, on a construit un hémicycle. C'est-à-dire qu'on adapte les lieux.
Donc, en fait, ce sont des preuves que c'est possible, en fait. On peut se réapproprier les lieux et puis les rendre publics, quoi, les rendre...
C'est vrai, mais il faut faire un travail d'aménagement.
Non, mais laisser à l'histoire ce qui appartient à l'histoire. Là, il faut qu'on aille dans quelque chose de plus progressif.
Et vous êtes complètement à côté. C'est votre éducation bourgeoise, mais vous pouvez pas faire payer les piétons l'accès à... et pourquoi pas les pigeons ? Est-ce que vous allez faire payer les animaux ? On est sur Terre.
Ça serait marrant, avouez-le quand même.
C'est quand même une chance qu'on a, et je pense qu'il faut tous en profiter. Et je pense vraiment que vous devriez laisser tomber votre culture bourgeoise et comprendre que la propriété privée n'est pas la priorité tout le temps et vous rallier à notre cause.
Je ne parle pas de propriété.
Vous pouvez venir aussi et vous indigner avec nous.
Hein. Je ne parle pas de propriété privée, mais il faut avouer, bah, par exemple sur l'exemple des toilettes, c'est flagrant que quand on laisse gérer ces espaces par des sociétés privées, le service est nettement meilleur. Et je pense qu'il faut se rendre compte de ça et de laisser les places privées être géré par des sociétés privées.
Vous avez dit places privées, vous voulez dire places publiques ?
Les places publiques, oui, bien sûr. Les places publiques, c'était par des sociétés privées.
Qui seraient plus publiques, du coup.
Qui seraient gérées par... Donc ça appartiendrait toujours au patrimoine de la ville, mais qui seraient donc gérées par des sociétés privées. Et c'est vrai qu'on aurait un service
nettement meilleur. Si on suit le cheminement de votre pensée, meilleur. Si les espaces publics deviennent gérés par des sociétés privées, deviennent des espaces privés.
Et puis surtout, vous voulez encore une fois faire du profit. Vous êtes obsédé par le profit. Vraiment, vous devriez.
Mais il faut vivre en tout temps, madame.
Non, moi je pense
qu'il y a une économie qui existe. Il faut arrêter de vivre dans le monde des.
Non, à mon avis,
des petites fleurs. Enfin voilà. Bon, moi je parle concrètement de choses.
Vous parliez de petites fleurs. Si on prend l'exemple de ce qui se passe à Londres, par exemple, là-bas, typiquement, dans la plupart des parcs, eh bien, c'est des transats qui sont loués là où il y a les petites fleurs. Donc, votre idée de parc-maître existe dans d'autres villes.
Oui, voilà, exactement. Et là, on est bien dans un cas où le parc est public, mais l'espace est géré par des sociétés privées. Et voilà, ça existe. Moi, je propose juste de étendre ça à la ville.
Et alors, les manifestations, comment ça se passerait, les manifestations?
Justement, on serait quand même débarrassé des manifestations.
Ah non. Et notre droit à la
Est-ce que, par exemple, le syndicat aurait une possibilité de payer pour emprunter une rue, une place, et puis pour organiser leur manifestation?
Voilà, ça serait une possibilité. Ou sinon, on propose aussi de délocaliser certaines places publiques.
Comment manifester? Mais où? Dans un champ, par exemple?
Exactement. Non, mais exactement. On proposerait des services, donc du coup qui coûteraient nettement moins cher à la ville, d'avoir des espaces publics, mais donc délocalisés de la ville dans des champs. Et du coup, voilà, ça ferait vivre en plus l'économie locale de
Bah, vous savez, nous, les indignés, ce qu'on veut faire, c'est vous délocaliser sur la Lune et être enfin débarrassé de tous ces fous complètement.
Je croyais que vous parliez qu'en votre nom.
Oui, je parle qu'en mon nom, mais alors, c'est une proposition.
Un projet assez rêveur, avant tout. Alors concrètement, donc, vous, on a compris, le mouvement du GPS serait pour étendre le phénomène des érodateurs, on va dire, à l'espace entier, enfin, je veux dire, aux villes, aux villages, etc., quoi. Et
là où c'est possible, oui. Là où des sociétés privées voudront bien.
Là où on peut faire des marquages au sol, par exemple.
Là où on pourra faire du profit, dites-le.
Alors juste, vous parlez de marquage au sol, mais récemment, il y a eu des progrès dans l'utilisation de ces outils, parce que ce que je vous décris, c'est comment ça fonctionne aujourd'hui. C'est vrai qu'on utilise beaucoup de marquage au sol, mais de plus en plus, on utilise d'autres techniques. Par exemple, en Belgique, on peut depuis maintenant 3 ans réserver sa place de parking en utilisant son téléphone. Ça s'appelle pay by phone, c'est-à-dire qu'on paye par téléphone. C'est pas, il y a pas de parc-mètre physique. En fait, c'est la dématérialisation de cette privatisation de l'espace public.
Et pensez-vous qu'on pourrait aller jusqu'à construire des murs, quoi? Puisque, en fait, dans des temps médiévaux, ça s'est déjà vu, on construisait des périmètres, étaient interdits à certaines personnes et donc étaient contrôlés, quoi. C'est une certaine forme de...
Vous voulez nous mettre en prison? Alors, vous, d'un côté, vous voulez arrêter notre droit de manifester.
Moi, je vous pose des questions, c'est
vous,
tout, quoi.
Oui, mais je vois bien l'idée derrière votre tête, hein. Vous êtes, c'est une émission complètement liberticide, hein.
Non,
et non pesticides,
des murs,
comme
vous voyez tout, vraiment avec un œil mauvais, comme si on faisait ça contre vous. Alors que c'est pas du tout contre la population. Je propose un meilleur service avec une meilleure gestion de l'argent. Et...
Eh bien, nous avons bien compris votre point de vue à tous, j'espère. Et puis, je vous fais part quand même d'une remarque ou d'une remarque d'un auditeur qui nous envoie un message et qui dit si on ne peut pas construire des places avoir des espaces publics en ville ou réaménager des places publiques, eh bien, mettons-les dans les champs, quoi, tout simplement, comme ça. Comme ça, il y aura de l'espace et puis les gens pourront gambader gaiement. Eh bien, voilà, c'est la fin de ce débat. Nous allons passer à la suite de l'émission dans l'appel à tarte.
Hello les amis! Vous êtes très nombreux à me demander si les gens qui vivent au palace sont faits comme tout le monde.
L'appel à tarte.
Et oui, nous sommes toujours à l'écoute de l'émission L'Appel à Tarte sur Radio Campus 93.3. Et comme chaque semaine maintenant, les voix de secours se préparent pour clore un petit peu ce débat dans L'Appel à Tarte. Alors, les voix de secours, j'ai pas bien compris le titre de la chanson qu'ils vont nous interpréter. J'ai pas eu le temps de tout noter.
Tout le monde veut devenir châtelain.
Voilà, tout le monde veut devenir châtelain. C'est à vous.
Le monde s'incruste dans nos palaces, parce que les pauvres et leurs tignasses rêvent d'avoir notre classe. Tout le monde est piqué de nos garden parties, tout tout semble auprès d'elle très démodé.
Rien ne vaut une bonne partie de croquet.
Un tiers, c'est quoi qui joue? Son RSA nous rend fous, ça valse comme des pieds. Mais c'est pire que Zircon ou le sire de Beaupré, quelle calamité! C'est comme parmi ces indigents surendettés. Le seul qui sache s'acharne à parier. Qui donc assumerait comme nous d'être génistes quand tout le monde veut devenir châtelain? Un tiers, c'est quoi qui joue? Son RSA nous rend fous, ça valse comme des pieds. Mais c'est pire que Zircon ou le sire de Beaupré, quelle calamité! Qui donc assumerait comme nous d'être génistes quand tout le monde veut devenir châtelain? Quand tout le monde veut devenir châtelain? Quand tout le monde veut devenir châtelain?
Youhou! Merci.
L'info, la vraie, l'actu comme vous ne l'avez jamais entendu.
Et tout de suite, on retrouve donc le professeur Schmurtz pour l'info, la vraie. Normalement, s'il retrouve ses fiches, mais a priori, il les a perdues. C'est pas grave, on va prendre le temps d'une autre virgule. Vous êtes toujours dans l'appel à tarte. Ah, le professeur Schmurtz, c'est à vous, oui. Voilà, en direct de nos studios.
Temps d'aller aux toilettes de la place publique, vous savez, c'est un peu long. Alors, actu locale, je ne sais pas si vous suivez l'actu locale, mais moi je la suis. Et bien, le Grand Carré Jaune sera finalement livré sur un plateau. La date de livraison restant fixée au second semestre 2013. Le champion du monde de bac à fleurs, Gilles Gazani, originaire de Saint-Ignat, dans le Puy-de-Dôme, est mort hier d'une intoxication au coquelicot des Indes. La vendange des pommes est désormais terminée. La nouvelle cuvée de vin de pomme, vous savez, le vin qui fait tomber dans les pommes, sortira chaque année au mois de mars, comme prévu, évidemment. Et pour finir, cette info très courte, alors actualité internationale, hein, niveau sport. Sport aux États-Unis, dans la course aux présidentielles, le match qui affrontera les deux derniers finalistes pourra être suivi sur tous les écrans et les cheminées de bonne facture dans tous les foyers de France, a déclaré le ministre en charge de la communication outre-Atlantique.
Place de la Concorde, de la Révolution d'octobre.
service ?
Où est-ce que je suis ?
Vous êtes à la réception, monsieur.
On est dans quelle chambre ?
L'appel à tarte.
Eh bien, nous venons d'écouter Nilda Fernandez et le titre en début d'émission était de Brigitte Fontaine, évidemment. Nous allons retrouver les voies de secours qui sont parties escalader le grenier, mais qui sont en train de revenir.
Oui, mais avant les voies de secours, je pense qu'on peut retrouver le péloscope de cette chère Carmen Burnie.
Merci, Imperator, mon cerveau était déconnecté.
Oui, je l'avais avec moi.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Karma.
Bonsoir.
Bonsoir, chère Karma.
La péloscope, car après l'horoscope, la science divinatoire du XXe siècle, voici la péloscope, la science divinatoire du XXIe siècle et du troisième millénaire. Selon ton signe pélostropique, la lecture de la pelle te guidera vers la pelle à suivre. Pelle saliveuse ou pelle dans ta face, que te réserve la pelle ancestrale ? Laisse la péloscope t'éclairer. Quelle pelle le futur te réserve ? Alors, travailleur ascendant public, l'appel de l'État pèse lourd sur tes épaules. Tu sens que l'avenir ne sera pas bon et tu as bien raison. En utilisant le pouvoir sacré de la dette, l'appel gouvernemental gratte et fait mal. La divine autorité européenne radote à ton oreille. Si le pays va mal, tu auras mal. Et si tu acceptes d'avoir mal, le pays ira mieux. Ce syllogisme est certes faux et rempli d'hypocrisie, mais c'est la voix de ton maître. Et si tu ne veux souffrir de vaines colères, il serait mieux pour toi de te laisser faire et d'accepter ta condition. Oublie les manifestations, les syndicats, les actions de désobéissance civile. Laisse-toi faire, ça va bien se passer. Ferme les yeux. Travailleur ascendant privé. Il y a longtemps que tu ne crois plus en l'humanité. Ton salaire n'est pas terrible, les impôts sont trop chers. Tu n'as pas de vacances et de toute évidence, tu te fais plus niquer que les autres feignants du public. Car c'est la dure loi de la compétition entre les travailleurs ici-bas. Qu'il faut être le meilleur pour s'en sortir et que toi, tu n'es pas le meilleur. Même si finalement, tu n'es pas si mauvais car toi, au moins, tu as un travail. Et que tu n'es pas un assisté du système. Oui, ta vie est fort pénible et il semblerait que la grande pelle de l'économie mondiale ne prévoit aucun jour meilleur. Mais en attendant que le système s'effondre complètement, tu peux toujours aller gratter un ticket pour laisser entrer dans ton cœur, pendant l'espace d'un instant, une petite lueur d'espoir. Entrepreneur descendant, école de commerce. Tu as raison, il faut essayer dans la vie. Bon courage et n'hésite pas à taper fort sur ceux qui se trouveraient à travers ton chemin. Chômeur ascendant chômeur. Chaque jour se vit comme une humiliation supplémentaire. Vois rien, même pas foutu de trouver du boulot. Si t'as pas de diplôme, tu te dis que personne ne voudra de ton CV pourri. Si t'as des diplômes, ben t'as l'air encore moins malin puisque tous tes diplômes ont l'air bien ridicules quand personne ne veut de toi. Ta pelle ancestrale est de celle qui creuse et qui t'enfonce à coups de pelle sur ton amour propre. Et maintenant que tu as bien creusé et que tu n'as rien trouvé, il faut peut-être penser à t'arrêter de patauger dans le caca. La pelle entre tes mains, tu peux maintenant t'allonger dans ton trou et t'endormir à jamais. Ou tu peux aussi te servir de ta pelle, non pas pour creuser ton trou, mais pour bâtir de nouvelles règles. Le voisin d'à côté est sûrement lui aussi chômeur ascendant chômeur. Peut-être qu'en unissant vos deux pelles, vous seriez plus fort. Et puisque vous êtes 6 millions en France de chômeurs ascendant chômeurs, imaginez toutes ces pelles unies, sans parler des chômeurs ascendant chômeurs du monde entier. Pelles de tous les pays, unissez-vous. Et comme on dit chez les dépressifs, une fois qu'on a touché le fond, il faut se relever. Il serait peut-être temps de dire que c'est bon, le fond, on y est.
Oh John, êtes-vous pas en train de donner de faux espoirs aux pauvres et de leur faire miroiter des choses impossibles ? Ce serait très mal, John.
Bonsoir les pauvres.
L'appel à tarte.
Et tout de suite dans l'appel à tarte sur Radio Campus, c'est les voix de secours qui viennent un petit peu maintenant clore notre émission. Alors, ils vont nous interpréter un morceau qui s'appelle...
Oui, les statues qui chantent.
Il y a les statues qui chantent. Ok, eh ben on écoute ça alors.
Dis, je trouve ça trop long. Déjà 4 mois que tu as des laissé les salons.
Tu es triste et tu déprimes depuis cet incroyable accident. Ce n'est plus la frime.
Ta limousine
est dans le fossé.
Ta lomoplate
et le bras cassé.
Viens dans mon palace, il y a les statues qui chantent. Viens dans mon palace, les serviteurs t'attendent. Ton carrosse est foutu, ne sois pas abattu. Mais ce petit tutu, promenons-nous dans les allées. Viens dans mon palace, il y a les statues qui chantent. Viens dans mon palace, les serviteurs t'attendent. Le sol brille, c'est beau, nous irons au galop.
Yeah!
Au son des gros sabots, des beaux chevaux qui t'attendent. Je sais bien que c'est très dur, mais ça aurait pu être bien pire. C'est pas le fémur.
Et pour ton chauffeur aussi, tout ça n'est pas drôle, d'autant qu'il n'a plus son permis.
Depuis qu'il l'a
perdu dans les bois,
oublie tout ça
et viens donc chez moi.
Viens dans mon palace, il y a les statues qui chantent. Viens dans mon palace, les serviteurs t'attendent. Ton carrosse est foutu, ne sois pas abattu. Mais ce petit tutu, promenons-nous dans les allées. Viens dans mon palace, il y a les statues qui chantent. Viens dans mon palace, les serviteurs t'attendent. Le sol brille, c'est beau, nous irons au galop. Au son des gros sabots, des beaux chevaux qui t'attendent. Viens dans mon palace, il y a les statues qui chantent. Viens dans mon palace,
merci, merci, les voix de secours.
Oh, John, n'êtes-vous pas en train de donner de faux espoirs aux pauvres et de leur faire miroiter des choses impossibles? Ce serait très mal, John.
Bonsoir, les pauvres.
L'appel à tarte.
Eh bien, voilà, l'appel à tarte, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons donc d'ici un petit mois. Alors, vous pouvez retrouver la rediffusion de cette émission le 4 novembre prochain, donc si
soit
vous écoutez,
dans 15 jours.
Dans 2 semaines, 14 jours. Donc si vous écoutez cette émission et que c'est le 4 novembre, c'est normal, c'est la rediffusion. Je remercie fortement donc à l'Impérator, hein, à la technique l'Impérator, nos trois débatteurs, Simone Poulette, Colette et Urbain de Pied, ainsi que les voix de secours, les Sonderwall, et puis cette magnifique histoire de la. L'appel histoire, exactement. J'avais un trou de pelle. Et ainsi que pour ces magnifiques ascensions, l'extra Lucie, pardon, enfin Karma Burnie, voilà. Merci à vous et à bientôt, restez à l'écoute de Radio Campus 93.3. J'espère que je n'oublie personne. À ciao dans l'appel à tarte.
Ciao.
Chauffez la pâte,
c'est l'heure de la pelle à tarte.